L'heure du crime.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Bonsoir, c'est Jean-Alphonse Richard, ravi de vous retrouver dans l'heure du crime sur RTL. Vous retrouverez très bientôt Jacques Pradel, que l'on salue aux commandes de cette émission que vous êtes toujours plus nombreux à suivre. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous 20h-21h du lundi au jeudi sur RTL. Ce soir, nous allons une nouvelle fois plonger dans les méandres d'une affaire judiciaire avec un crime sans fin. 40 ans de procédures qui viennent peut-être de connaître leur épilogue. C'était vendredi dernier, dans la matinée, la sortie anticipée de prison pour raison médicale d'un homme de 84 ans, un ancien médecin allemand, le docteur Dieter Krombach, condamné en 2011 pour le meurtre d'une adolescente de 14 ans, la petite Kalinka. Cette affaire qui n'a cessé de défrayer la chronique, c'est bien sûr l'affaire Bamberski, du nom du père de Kalinka, André Bamberski, qui, durant les 4 décennies qui viennent de s'écouler, a mené quasiment tout seul cet incroyable combat. Confondre le meurtrier de sa fille, un notable inatteignable ayant pignon sur rue, et qu'il fera finalement enlever de force pour qu'il soit remis aux autorités françaises. Rarement une quête de justice n'aura exigé une telle détermination, de tels sacrifices pour enfin, comme le dit André Bamberski, retrouver la paix et avoir enfin l'âme tranquille. Le feuilleton judiciaire de l'affaire Bamberski touche donc à sa fin, même si, malgré le temps et les procès, des questions restent encore sans réponse. Ce soir, pendant une heure, nous allons donc revenir sur les dessous d'un crime, un meurtre sordide, une affaire qui dérange et que tout le monde voulait oublier, sauf un homme qui avait juré sur la tombe de sa fille qu'il obtiendrait justice. Les ombres et les lumières d'une histoire criminelle exceptionnelle, le combat d'un père, l'affaire Kalinka Bamberski. À tout de suite dans l'heure du crime.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Bienvenue donc dans l'heure du crime où nous revenons ce soir sur une affaire criminelle aux allures d'affaire d'État. Le meurtre embarrassant de la petite Kalinka Bamberski. 40 ans de silence et de questions. Ce 10 juillet 1982, le corps sans vie de Kalinka Bamberski est découvert dans son lit au premier étage d'une belle maison de Lindau sur les berges du lac de Constance en Allemagne. Depuis quelques jours, l'adolescente, 14 ans, et son frère Nicolas, 11 ans, étaient en vacances dans cette demeure propriété du docteur Dieter Krombach. L'homme avec lequel vit désormais leur mère, Danielle, séparée du père des enfants, André Bamberski, un expert comptable qui habite en France, à Pechbusk, sur les hauteurs de Toulouse. La mort brutale de Kalinka plonge dans l'effroi toute la maison. Personne n'a rien entendu, aucun cri, aucun appel au secours, aucune suffocation. La veille, la jeune Française était encore en pleine santé. Elle nageait et faisait de la planche à voile sur le lac de Constance. Elle n'avait montré aucun signe de fatigue ou une quelconque pathologie. Le médecin légiste, qui est à son chevet, est bien à la peine pour trouver une explication à ce décès brutal. Tout juste si l'on remarque sur le corps des traces de piqûres. Le docteur Krombach explique que Kalinka se trouvait pas assez bronzée. Il lui aurait donc injecté un mélange de fer et de cobalt, destiné à favoriser le brunissement de sa peau. Comme le veut la loi, le corps de Kalinka est autopsié 2 jours après la mort à l'hôpital de Memmingen. Les traces de piqûres sont mentionnées, mais a priori rien ne peut éclairer les causes du décès de la jeune Française. On sait qu'elle était dans un coma profond quand elle a cessé de respirer. Le docteur Krombach précise qu'il aurait effectué d'autres injections quand il a découvert Kalinka inerte pour essayer en vain de la ranimer. Le légiste trouve le procédé grotesque, Kalinka étant déjà à ce moment-là en état de rigidité cadavérique. Toute intervention aurait donc été vaine. Mon client médecin a fait ce qu'il a cru bon dans un état compréhensible de panique et d'urgence, répondra plus tard un des avocats de Dieter Krombach. Le récit du docteur Krombach a beau être un peu brouillon, les légistes le connaissent, tout comme les policiers et les autorités locales. C'est une personnalité respectée et respectable. Le 17 août, le parquet de Kempten classe donc l'enquête. Mort accidentelle, cause inconnue. Kalinka sera enterrée à Pechbusk, en présence de ses parents, André Bamberski et Daniel, ainsi que du docteur Dieter Krombach. En cet été 1982, Kalinka Bamberski repose donc au cimetière de Pechbusk. Son père, André Bamberski, est ivre de chagrin et il ne cesse de se poser des questions sur la mort de sa fille qu'il décrit comme une enfant saine, gaie et sportive. 6 semaines après le décès, André Bamberski reçoit une enveloppe en provenance d'Allemagne. C'est le résultat de l'autopsie. L'expert comptable parle allemand. Et ce qu'il lit est complètement déroutant. Il y a ces traces de piqûres qui pourraient signifier que Kalinka est mort d'une overdose. Mais une overdose de quoi ? Certainement pas de stupéfiants, Kalinka ne se drogue pas. Et puis surtout, ces constatations autrement plus troublantes. Les légistes notent des traces d'un liquide blanchâtre dans le vagin et du sang dans l'hymen. Pas d'autres précisions. Mais le père de Kalinka est sous le choc. Il s'interroge et dès cet instant, son cerveau est totalement accaparé par ses résultats. Il a la certitude que Kalinka n'est pas morte dans son sommeil, mais qu'une tierce personne, une intervention extérieure, a provoqué le décès. Bonsoir, maître François Gibault.
Bonsoir, monsieur.
Merci d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat historique, si je puis dire, de André Bamberski, le père de Kalinka. Vous serez d'ailleurs à l'origine d'un rebondissement qui fera véritablement démarrer l'enquête. On en reparlera dans un petit moment dans cette heure du crime. Pour le moment, on revient, si vous le voulez bien, au tout début de l'affaire. Ce corps sans vie de Kalinka. Que donnent les premières constatations de l'autopsie? Est-ce qu'elles sont faites correctement ou bien dans le désordre?
Je crois que l'autopsie a été bien faite.
Qu'est-ce que vous répondent, maître Gibault, les policiers, les autorités locales, je pense que allemandes, que vous sollicitez pour savoir comment se sont déroulées ces constatations? Est-ce qu'il y a...
Non, moi, je n'ai eu aucun contact direct avec les autorités policières, mais monsieur Bamberski avait un avocat en Allemagne. On a déposé au moins 3 plaintes, je crois même peut-être 4, et chaque fois il y a eu des classements sans suite, c'est-à-dire que la police a dit non, nous n'avons aucune charge, on ne transmet pas au procureur de la République. Et on avait l'impression que la police allemande ne voulait pas savoir la vérité. Il faut savoir aussi que quand on a appelé le samedi matin, qu'on a découvert le cadavre de cette jeune fille, on a appelé l'urgentiste, évidemment, qui est arrivé très très rapidement, qui connaissait Krombach, évidemment, ce sont des confrères, ils exercent dans la même ville, et l'urgentiste a dit à Krombach, je vais prévenir le procureur, car ça n'est pas une mort normale. À ce moment-là, le docteur Krombach a dit, veux-tu que je le fasse? Bien sûr, fais-le. Et il ne l'a jamais fait, ce qui est quand même tout à fait surprenant. C'est déjà révélateur,
bien sûr, hein,
d'un comportement criminel.
Et d'une gêne, en tout cas. Quel est le sentiment de votre client, André Bamberski? Très vite, il est persuadé qu'il y a quelque chose de trouble derrière la mort de sa fille.
Quand il vient me voir, il est persuadé que c'est Krombach qui a tué sa fille. Volontairement, pas volontairement, il en est absolument convaincu quand il vient me voir. Il vient me voir assez vite après les faits, quand il a porté plainte à Paris.
Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, j'en suis sûr, pourquoi? Est-ce qu'il vous donne une raison?
Eh bien, il m'apporte tous les éléments, il m'apporte l'autopsie, il m'apporte le comportement de Krombach qu'on connaissait après la mort. Il est absolument, lui, convaincu dès le départ que Krombach est responsable de la mort de sa fille. Il ne sait pas exactement comment, mais c'est lui le responsable.
Après avoir reçu les résultats de l'autopsie de Kalinka, son père, André Bamberski, est rongé par le doute. Il ne peut pas se résoudre à ce que la mort de sa fille reste inexpliquée, que cette enquête menée en Allemagne soit classée sans suite. André Bamberski est obnubilé par le souvenir de Kalinka, un prénom qui est le nom d'une fleur en Pologne, pays dont André Bamberski a des origines familiales. Il n'obtient pas de réponse de la part des autorités allemandes, fin de non-recevoir, tout aussi bien du parquet de Kempten qu'auprès des médecins légistes de l'hôpital de Memmingen. Ou alors lui parviennent des bribes d'explications, une insolation, les conséquences à retardement d'un accident de voiture et même, à cause des piqûres, une overdose de drogue. Des rumeurs, des hypothèses, mais rien de concret. André Bamberski s'interroge, se laisse envahir par le soupçon, mais pas question pour ce père de famille qui se rappelle de la vie avec Kalinka comme d'un enchantement, de se résoudre à baisser les bras, comme il ne cessera plus tard de le répéter.
L'accumulation de toutes ces bavures, de tous ces dysfonctionnements, de ces protections, de ce que j'appelle les collusions, les corruptions, les entraves, il m'a contraint à continuer, à persévérer. Si je n'avais pas développé toutes ces démarches personnelles, bon, je me serais toujours considéré comme un lâche de ne pas aller jusqu'au bout.
André Bamberski décide donc de déposer une nouvelle plainte en France. Autant dire que celle-ci est destinée à finir dans un tiroir. Il n'y a aucun empressement du côté de la justice française à prendre en main un dossier déjà clos en Allemagne. Le père de Kalinka attendra, quitte à ce qu'il finisse à se décourager. Mais il ne baisse pas les bras. 3 ans après la mort de sa fille, il obtient, non sans mal, qu'on pratique une deuxième autopsie. Il faut pour cela exhumer le corps de l'adolescente. C'est chose faite, et là, le constat des légistes français est stupéfiant. Un sordide coup de théâtre, les parties génitales du corps de Kalinka ont disparu. Comme si on avait décidé de faire disparaître un indice, ou peut-être même la preuve d'un meurtre ou d'un viol. Alors évidemment, après ce constat, André Bamberski ne va avoir de cesse de désigner le docteur Dieter Krombach comme le meurtrier de sa fille, ou dans tous les cas, le suspect numéro 1. Mais le père de Kalinka n'est pas au bout de ses peines. C'est un homme qui crie dans le désert, au propre comme au figuré, puisqu'il va tout faire pour qu'on l'écoute. Mais ses cris vont rester pendant des mois et des années sans aucun écho. Maître Gibault, je me tourne vers vous. Vous êtes l'invité ce soir de l'heure du crime et le premier donc avocat de André Bamberski. Qu'est-ce que l'on sait alors? Pourquoi les organes génitaux de Kalinka ont disparu?
Ben, nous pensons que M. Bamberski et moi pensons tout simplement que, compte tenu de sa position de médecin, compte tenu du fait qu'il connaissait les légistes, il est à l'origine de cette disparition. Parce que ça risquait pour lui d'être terrible au cas où il aurait violé Kalinka avant de lui donner la piqûre mortelle. C'est notre opinion, ça a toujours été notre opinion. Mais la disparition des organes génitaux de la jeune fille fait qu'on n'a jamais pu d'abord les analyser et ensuite poursuivre le docteur Krombach pour viol.
Alors vous dites à l'origine de la disparition, mais il n'a pas participé, lui, à l'autopsie. Ce sont d'autres médecins qui l'ont pratiqué.
Il était présent à l'autopsie.
Il était présent à l'autopsie. Ce qui n'est pas l'usage.
C'est pas l'usage, mais entre médecins, tandis qu'ils se connaissaient. Kempten, c'est une petite ville, tous les médecins se connaissent. Il a donc assisté effectivement à l'autopsie. Mais ensuite, l'élément essentiel qui a été prélevé, ils n'ont pas prélevé les poumons, ils n'ont pas prélevé d'autres organes, ils ont prélevé uniquement ces organes-là parce qu'ils ont trouvé quelque chose de suspect.
Qui apparaît d'ailleurs dans l'autopsie, ces traces blanchâtres qui sont signalées.
Alors, il y a des traces blanchâtres, il y a des rougeurs, il y a quand même beaucoup d'éléments qui donnent à penser que la gamine a été violée.
Bonsoir Patrick Tégéraud.
Bonsoir.
Deuxième invité dans l'heure du crime, le chef du bureau de RTL à Toulouse, excellent connaisseur du dossier Bamberski que vous avez suivi d'ailleurs jusqu'au procès. Patrick Tégéraud, vous allez à l'époque souvent le croiser, ce père en souffrance dans les rues de Toulouse qui cherche la vérité.
Oui. André Bomberski, vous savez, quand je suis arrivé à Toulouse, je crois que ça devait être en 89, des confrères m'avaient dit, et m'avaient prévenu, ils m'avaient dit, tu vas recevoir un coup de fil, tu viens d'arriver, mais ça va pas tarder, tu vas recevoir un coup de fil d'un monsieur qui s'appelle Bomberski, et qui se bat pour la mémoire de sa fille, et il ne réclame pas vengeance, il réclame justice. Alors, je dis, bon, bah oui, ça va bien m'arriver un jour. Et en effet, un jour, je reçois un coup de fil de ce monsieur très poli, très gentil, qui me dit, vous savez, je vais aller manifester devant la préfecture de Toulouse, là, la semaine prochaine. Donc, je convie quelques journalistes. Je serais ravi de faire votre connaissance à cette occasion. Et donc, je me suis retrouvé, place Saint-Étienne, devant la préfecture. Et en effet, j'ai vu ce monsieur qui avait quelques panneaux en carton sur lesquels il avait collé, bien sûr, le magnifique portrait de Kalinka. Mais aussi une certaine correspondance qu'il entretenait, que ce soit avec les autorités allemandes, les autorités françaises, la chancellerie en particulier. Et c'était, oui, voilà, ça faisait 4-5 ans déjà maintenant qu'il se bagarrait hein, pour que la procédure avance. Et très simplement, sans affect, très froidement, en pilant les pièces de procédure, il m'a expliqué donc que voilà, sa fille avait été tuée par le nouveau mari de son ex-époux. Dans des conditions extrêmement troubles et que visiblement ce monsieur Krombach bénéficiait de protections presque occultes puisque à l'époque monsieur Bomberski envisageait même qu'il ait fait partie des services de renseignement allemands. Enfin, ça paraissait énorme.
Ça va être
quasiment incrédible.
Ça va être un leitmotiv, hein, ça, chez André Bomberski, cette théorie de la collusion entre les justices allemandes et françaises. À l'époque, on le prend pas du tout au sérieux. André Bomberski.
Alors, on le prend au sérieux quand même parce qu'on est touché. On est touché. Mais tout paraît tellement compliqué, tellement complexe. Je dirais que j'ai eu des difficultés à, entre guillemets, comme on dit dans notre jargon, à vendre l'histoire à Paris.
C'est-à-dire que l'histoire soit diffusée. RTL.
Et je me souviens très bien de cet homme qui, après nous avoir parlé pendant une heure, rangeait tranquillement ses cartons, les empilait sur son épaule et comme un malheureux homme sandwich presque, repartait comme ça vers sa voiture, garé un petit peu plus loin, rangeait son matériel, ses cartons, ses papiers, ses affiches et repartait chez lui, à Pêche-Busque, au sud de Toulouse.
François Gibault, avocat de André Bomberski, vous le défendez parce que vous le croyez, André Bomberski, il est touchant, il est crédible.
C'est un homme extraordinaire. C'est un homme très très émouvant, qui connaissait le dossier, je dirais mieux que moi, qui avait appris le droit, alors qu'il avait atteint l'âge de la retraite, mais il aurait pu continuer son métier d'expert comptable, décider volontairement d'arrêter son métier pour se consacrer entièrement à l'affaire Bomberski.
L'affaire Kalinka Bomberski, ce soir dans l'heure du crime. Cette jeune fille de 14 ans, retrouvée morte en 1982 dans des conditions plus que mystérieuses dans la villa allemande de son beau-père, le docteur Dieter Krombach, un homme vers lequel convergent désormais tous les soupçons. André Bomberski, le père de Kalinka, ne ménage pas ses efforts pour connaître la vérité sur la mort de sa fille. Peu à peu, il va d'ailleurs mettre entre parenthèses sa carrière d'expert comptable. Il va tout sacrifier pour mener ce combat judiciaire, devenant un expert en droit, une espèce de juriste, obsédé par une seule affaire, l'affaire Kalinka. À Pêche-Busque, là où il vit, près de Toulouse, André Bomberski accumule ainsi dossiers, expertises et contre-expertises, analyses, noms et téléphones des personnes liées à l'affaire, dépôts de plaintes, et puis ces lettres qu'il adresse aux autorités, à des ministres, à des personnalités françaises et allemandes. André Bomberski mène ce combat sans jamais perdre espoir. Les ressources, il les trouve sur la tombe de Kalinka, et puis aussi dans la prière, c'est un catholique convaincu, présent aux offices de sa paroisse. 13 ans après la découverte du corps de Kalinka, André Bomberski touche enfin au but. Tout au moins, il s'en rapproche. Ce 9 mars 1995, il remporte une immense victoire devant la cour d'assises de Paris. Celle-ci a fini par entendre les interrogations du père meurtri. Le juge d'instruction a effectivement été troublé par les nombreuses incohérences qui entourent l'enquête allemande, les mystères ou les oublis, comme on voudra, de l'autopsie. Le docteur Dieter Krombach, le beau-père de Kalinka, est la dernière personne à l'avoir vue vivante. Il est donc condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour son rôle dans le décès de la jeune fille. mais condamné par contumace, le médecin ne s'est pas déplacé, il est resté en Allemagne. Impossible donc de mettre la main sur cet homme qui a tout d'un notable bien établi chez lui en Bavière. Il est intouchable, ce qui renforce les certitudes d'André Bamberski, selon lesquelles celui qui est impliqué dans la mort de sa fille est protégé, a des appuis, haut placé. A priori, personne côté français et côté allemand n'a envie d'importuner ce diplômé de cardiologie et de médecine interne. Son cabinet est très bien fréquenté. Ses proches le décrivent comme quelqu'un de très cultivé, très intelligent, qui dépense sans compter pour couvrir sa famille de cadeaux. Un amateur de jolies femmes aussi, marié à 4 reprises et incorrigible séducteur. Dans tous les cas de figure, un notable assez influent pour avoir la paix en dépit de cette condamnation qui vient de tomber devant la cour d'assises. Maître François Gibault, je vous retrouve, vous êtes donc l'avocat d'André Bamberski. Très étrange ce procès, cette audience à contumace qui se tient alors quasiment, si je puis dire, à la cloche de bois, à l'abri des regards dans ce palais de justice de Paris.
C'est un peu toujours le cas des procès en contumace. Mais ce qu'il faut savoir, que quand j'arrive à l'audience, en principe, la partie civile, c'est-à-dire M. Bamberski en l'occurrence, est seule à plaider. Or, je vois sortir du bureau du président un monsieur, trading, peut-être pas l'ambassadeur lui-même, mais un haut responsable de l'ambassade d'Allemagne à Paris, qui sort du bureau du président, avec un avocat d'ailleurs. Moi, je rentre dans le bureau du président à mon tour. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, l'ambassadeur m'a demandé de renvoyer l'affaire. J'ai décidé de la renvoyer. Mmh. Alors moi, j'ai bondi. J'ai dit, vous devez d'abord me demander mon avis. Je lui dis que c'est absolument intolérable. C'est une action d'un État étranger sur la justice française. Alors il se rend compte qu'il a fait une gaffe et il me dit, écoutez, bon, oui, effectivement, j'aurais pas dû. Mais est-ce que vous acceptez un renvoi à un mois? Alors là, je lui ai dit, d'accord, oui, on renvoie au mois prochain, d'accord, ça, je suis d'accord. Mais on retient l'affaire. Et on l'a retenu, et le docteur Combac a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
En son absence, donc, et par contumace, ce que vous dites là, maître Gibault, c'est qu'il y a eu des collusions, finalement, entre la France et l'Allemagne sur ce dossier.
Ah ben oui, ça, j'en ai eu ensuite la preuve.
Voilà, et qu'il y a eu des... presque, on pourrait dire, des pressions pour que ça se passe plutôt bien pour Dieter Krombach, c'est ce que vous dites?
Quand un homme est condamné par une cour d'assises, à l'époque, c'était la contumace, ça n'existe plus. Mais selon la procédure de contumace, il y avait automatiquement un mandat d'arrêt qui était lancé contre lui, bien entendu. Mmh. Alors, au bout de quelques mois, M. Bamberski me dit, est-ce que vous pouvez aller vérifier si le mandat d'arrêt a bien été diffusé? Je vais donc voir le procureur général de Paris, qui était très gêné. Il m'a dit, monsieur, j'ai reçu des instructions du ministère pour ne pas diffuser le mandat d'arrêt, ce qui permettait donc à Dieter Krombach de circuler dans toute l'Europe sans être arrêté.
Et comment expliquer alors cette faille, en tout cas, cette volonté?
C'est moi la justice que les politiques que je critique dans ce dossier. Hein. Parce que les juges d'instruction ont fait ce qu'ils devaient, la cour d'assises a fait ce qu'elle devait. Mais ensuite, pour l'exécution de l'arrêt, il y a eu des instructions politiques de ne pas diffuser le mandat d'arrêt. Alors à ce moment-là, j'ai dit au procureur général, c'est inadmissible. J'ai jamais vu ça, il m'a dit moi non plus, mais j'ai des instructions écrites. Et je lui ai demandé de revoir la question. 15 jours plus tard, il m'a dit non, j'ai les mêmes instructions. Et il a fallu à ce moment-là que j'aille voir un journaliste que je connaissais, un excellent journaliste, Jean-Alphonse Richard, pour ne pas le nommer.
Dans une autre vie.
Qui, 8 jours plus tard, a fait une page ou une demi-page dans le Figaro. La scandale, le procureur général me dit « Ah, mais vous avez saisi la presse ?» Ben oui, je n'avais que ça à faire. Et aussitôt, le mandat d'arrêt a été diffusé. Alors j'étais furieux parce qu'un avocat qui utilise les moyens de droit, qui prend contact avec les magistrats, n'a aucun effet, aucun pouvoir. et un journaliste dans le Figaro obtient ce qui m'était refusé.
Comme quoi les journaux peuvent servir à quelque chose et la presse sert à quelque chose. Évidemment, là on retrouve la personnalité du docteur Krombach, qui est un vrai notable en Allemagne. Hein. En quelques mots, dites-nous comment, qu'est-ce qui pèse là-bas
Ah oui, il est très connu dans la ville, c'est un homme riche, un homme qui a un très beau cabinet médical. Si je peux dire quelque chose encore, il se serait présenté par contumace. Dans l'état actuel du dossier, il avait une chance d'être acquitté.
Ah.
Et ce qui s'est passé dans cette affaire est extraordinaire. On dit toujours, plus une affaire dure, plus il y a une déperdition des preuves, n'est-ce pas? Parce que les témoins meurent ou ils oublient, etc. Dans le cas présent, c'est exactement le contraire ce qui s'est passé.
En ces années 1990-2000, il n'est pas rare que le père de Kalinka se rende en Allemagne pour essayer d'en savoir plus sur le docteur Krombach, de connaître tout de sa vie et de ses habitudes, de le mettre sous pression afin de bien lui faire comprendre qu'il a été condamné en France et que tant qu'il sera vivant, lui, André Bamberski, ne le lâchera pas.
L'Allemagne qui n'a rien fait depuis la condamnation du docteur Krombach, qui a refusé toujours d'extrader Krombach alors qu'elle peut le faire et surtout de l'incarcérer alors qu'elle y était obligée, franchement, ça m'écœure. Je trouve que c'est une honte que l'Allemagne procède de cette manière-là alors que dans cette affaire, l'Allemagne ne respecte pas du tout la législation criminelle européenne et la bafoue, et la France ne fait rien pour exiger que la législation européenne soit respectée.
Des mois durant, André Bamberski va ainsi faire des allées et venues à l'Indo, en Allemagne, puisque ce pays refuse d'arrêter celui qui est considéré par la justice française comme un criminel. Le père de Kalinka va alors surveiller la moindre erreur que pourrait commettre le médecin. Par exemple, un passage de frontière. En janvier 2000, après avoir été informé d'un déplacement du docteur Krombach en Autriche, il ira le traquer jusqu'à un passage, à un poste frontière. Bamberski réussit alors à faire arrêter Krombach, qui est incarcéré dans la petite ville de Feldkirch. Une demande d'extradition est formulée par les autorités françaises, mais c'est peine perdue. Une nouvelle fois, l'influent docteur Krombach réussira à glisser entre les mailles du filet, extradition refusée par le tribunal d'Innsbruck. Entre-temps pourtant, le profil de Dieter Krombach a changé. 2 ans après sa condamnation en France, il écope en Allemagne de 2 ans de prison avec sursis et 2 ans d'interdiction d'exercer la médecine. Il est accusé d'avoir drogué et violé une patiente âgée de 16 ans. Le médecin reconnaît les faits en expliquant que cette jeune fille n'avait rien dit et qu'il la croyait consentante. Étrange affaire qui rappelle le scénario Kalinka et conforte les affirmations de André Bamberski. Le médecin ressort libre du tribunal. Il fera ensuite quelques années plus tard quelques mois de prison, mais pour exercice illégal de la médecine. Le silence retombe alors sur l'affaire Kalinka. Presque tout le monde a oublié André Bamberski, qui fait de moins en moins parler de lui. Même s'il continue à harceler le médecin et n'a pas perdu espoir de le jeter en prison pour le meurtre de sa fille, jusqu'au 18 octobre 2009, où tombe une incroyable nouvelle, quasiment surréaliste. Le docteur Krombach a été retrouvé pieds et poings liés à Mulhouse après avoir été enlevé en Allemagne pour le compte de André Bamberski.
Tout commence par un appel anonyme dimanche matin au commissariat de police de Mulhouse. Une voix masculine avec un fort accent des pays de l'Est signale la présence dans une rue proche du tribunal d'un homme ligoté. La police se rend alors sur les lieux et porte secours à cette personne. Mais très vite, les enquêteurs se rendent compte qu'ils ont affaire à Dieter Krombach, un cardiologue allemand de 74 ans, sous le coup d'un mandat d'arrêt depuis 1995. Il est accusé de violence ayant entraîné la mort de sa belle-fille Kalinka Bamberski. vie. Des faits qui remontent à 1982, alors que la jeune fille de 14 ans était en vacances avec sa mère et son beau-père près du lac de Constance en Allemagne. Mais outre cette réapparition mystérieuse, le plus étonnant dans cette affaire, c'est la présence au même moment, ce week-end à Mulhouse, du père de la victime, André Bamberski. Alors est-ce que c'est lui qui a appelé anonymement la police pour livrer celui qui est accusé d'avoir indirectement tué sa fille? Les deux hommes sont en tout cas en garde à vue et c'est maintenant aux enquêteurs de dénouer les méandres de cette affaire vieille de 27 ans.
Maître François Gibault, on vient d'écouter le reportage de Raphaël Vantard pour RTL. Vous êtes à ce moment-là crucial pour l'affaire, évidemment, l'avocat de André Bamberski. Il va d'ailleurs, André Bamberski, après ce rapt et la remise aux autorités françaises du docteur Crombard, il va admettre avoir donné son accord pour l'enlèvement. C'est un rapt réalisé par un père de famille kosovar, un certain Anton Krasniqi. Bamberski sera d'ailleurs interrogé par la police et puis il écopera bien plus tard d'un an de prison avec sursis pour cette complicité d'enlèvement. Maître Gibault, est-ce que vous étiez informé de cette action spectaculaire?
Non, bien sûr, je ne le savais pas. Je l'ai appris par la radio et par des coups de téléphone de journalistes. Je ne me suis pas occupé d'ailleurs de lui à ce moment-là, mais je l'ai eu au téléphone. Le commissaire de police a bien voulu me le passer au téléphone. Et à partir de cet enlèvement extraordinaire, hein, exceptionnel,
digne d'un scénario de film.
Je dois dire que la justice française a bien fonctionné, si vous voulez. D'abord parce qu'on l'a arrêté. Il a protesté, ses avocats ont protesté, ils ont dit que c'était un enlèvement, donc une arrestation illégale. La justice française a appliqué sa propre jurisprudence d'ailleurs, et il a été détenu à partir de ce moment-là et jusqu'il y a quelques jours.
Mais ça va être donc le credo tout de suite des avocats du docteur Dieter Crombard de dire cet enlèvement c'est illégal. On n'a pas le droit d'enlever quelqu'un et de force comme cela et de le remettre à une autorité judiciaire.
Oui, il y avait une jurisprudence de la Cour de cassation à la suite de l'enlèvement du colonel Argout et puis d'autres.
Et notamment du terroriste Carlos au Yémen.
Dans la mesure où ce n'est pas l'État français qui est allé le chercher, l'État français considère qu'il est sur son territoire, qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt et on l'arrête. Voilà, ça a été la jurisprudence. Mais ils se sont battus devant la chambre de l'instruction, ils se sont battus à la Cour de cassation. Ils ont tout fait pour annuler, si vous voulez, cette arrestation.
Est-ce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il vous dit, votre client, André Bamberski? Est-ce qu'il est soulagé? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il a le sentiment d'avoir...
Il se bat depuis des années pour que justice soit rendue. Et là, par une action illégale, bien entendu, il va permettre enfin au docteur Krombach d'être jugé contradictoirement devant une cour d'assises.
Patrick Tegereau, vous êtes en ligne avec nous depuis le bureau RTL de Toulouse. Vous allez revoir André Bamberski après cet enlèvement. Et je vous repose la même question qu'à Maître Gibault. Est-ce qu'il est soulagé? Est-ce que vous avez en face de vous quelqu'un qui a finalement changé et qui a de l'espoir désormais?
Ah oui, ça, il est tout à fait, toujours aussi déterminé. Vous savez, moi, je peux pas en parler très objectivement d'André Bamberski. Pour moi, c'est un héros moderne, cet homme-là. C'est un père idéal. C'est quelqu'un qui est allé au bout, qui, comme je le disais tout à l'heure, n'a jamais crié vengeance. Il voulait juste la justice. Il l'a obtenue. Et même s'il a fallu un peu forcer la main de la justice. Et c'est vrai que enlèvement de Krombach et la dernière, c'était le dernier espoir pour qu'il puisse être jugé. Il aurait pu le faire assassiner. Hein. Il aurait pu le faire passer à tabac et qu'on retrouve son corps tuméfié au fin fond d'une forêt autrichienne ou allemande. Non, il voulait que ce soit la justice française qu'il condamne et qu'il condamne véritablement.
L'heure du crime avec ce soir l'affaire Kalinka Bamberski. 27 ans de traque pour que André Bamberski, le père de Kalinka, puisse enfin voir le meurtrier de sa fille jugé par un tribunal et incarcéré pour ce crime. 2 ans après avoir été remis aux autorités françaises, le docteur Dieter Crombard, il est alors âgé de 75 ans, doit comparaître devant la cour d'assises de Paris. Le procès est prévu du 29 mars au 8 avril 2011, mais il est reporté. Le médecin, malade, n'est pas en état de se présenter devant ses juges. André Bamberski pense qu'il s'agit là d'un énième stratagème pour éviter le procès. Un moment qu'il attend depuis si longtemps. Et dans sa tête, cette image de Kalinka qui revient sans cesse.
Elle aurait eu 44 ans le 7 août. Lorsque je vois une jeune femme de 40 ans, 45 ans, que ce soit dans la rue ou ailleurs, effectivement, je pense que ce serait Kalinka. Disons, bon, j'aurais pu abandonner dans les 5 ans ou dans les 10 ans qui ont suivi de la mort de Kalinka. 20 ans ou 25 ans après, je ne pouvais pas abandonner. Je ne pouvais plus abandonner. Ça aurait été de la lâcheté. Elle mérite que la justice soit exercée à sa mémoire.
Il faut aller au bout cette fois-ci.
Il le faut absolument parce que bon, cette affaire n'a que trop traîné.
Vous envisagez, vous vous projetez dans la possibilité où ce procès n'aboutit pas ?
Non. Bon, 29 ans, 30 ans, maintenant j'en ai assez.
Le père de Kalinka ne va pas patienter indéfiniment. Le 4 octobre 2011, le procès peut enfin démarrer. Et cette fois-ci, le médecin est là, dans le box des accusés. Il est voûté, s'appuie sur une canne. Le procès va être l'occasion d'un déballage sur la vie du docteur Krombach. Sur Kalinka, les explications sont quelque peu nébuleuses. L'accusation maintient que le médecin aurait voulu la violer et lui aurait administré pour cela un puissant somnifère. Les habitudes du médecin sont passées au crible, y compris ses préférences sexuelles et son goût pour les jeunes femmes. Chloé Triomphe est à l'audience pour RTL.
Obsédé, le mot est faible, selon l'une des femmes venues témoigner aujourd'hui, une femme de 40 ans au profil plutôt austère et qui raconte calmement à la barre le viol digital qu'elle aurait subi de la part du docteur Krombach alors qu'elle avait une quinzaine d'années. À l'époque, elle et sa sœur étaient deux jeunes filles livrées à elles-mêmes par une mère dépressive et accro aux médicaments, totalement sous l'emprise du docteur. Et cette mère, qui ne les protégeait plus, les laissait partir régulièrement en voyage avec lui, virée en Camargue, à Londres, là où elle décrit le viol, sans jamais parvenir encore aujourd'hui à jeter ne serait-ce qu'un regard à son agresseur d'hier. Dans son box, le docteur Krombach nie en bloc, les traite de menteuse sans hésiter. Et quand il s'agit de s'expliquer sur une liaison qu'il a eue à l'âge de 50 ans avec une jeune fille de 16 ans, liaison consentie cette fois, il se contente de préciser qu'il a eu pitié de cette jeune fille qui cherchait un papa de substitution. Autant de témoignages qui ne font pas de lui un assassin, mais qui jettent un trouble singulier sur son goût pour les très jeune fille dans un procès où il est accusé, vous l'avez dit, du meurtre de sa belle-fille Kalinka qui avait alors 14 ans dans des circonstances toujours inexpliquées.
Dieter Krombach est condamné à 15 ans de détention pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. L'année suivante, cette peine est confirmée en appel par la cour d'assises de Créteil. Le médecin allemand va effectuer au total 10 ans et 4 mois en détention avant donc d'être libéré vendredi dernier pour raison médicale et d'être autorisé à rentrer chez lui en Allemagne où sa fille, qui était présente au procès, l'a toujours défendu. André Bamberski considérera cette remise en liberté illégale et ahurissante, estimant que l'homme qu'il traquait depuis tant d'années aurait dû écoper de 30 ans de prison. Patrick Tegero, vous assistiez pour RTL au procès de Dieter Krombach. Ces audiences ont-elles permis de faire la lumière sur la mort de Kalinka ?
Alors, moi, j'ai assisté en particulier à la première, au premier
la procès, première audience,
si je peux dire, qui a été complètement tronqué, puisque Dieter Krombach est parti en hospitalisation et que donc le procès a été renvoyé. Mais ces quelques journées d'audience ont permis quand même de bien cerner le personnage. En effet, il y a des témoignages qui arrivent, nombreux. Il y a ce policier allemand qui vient raconter un petit peu qu'il y a des dossiers très importants qui ont été ouverts de plaintes contre le docteur Krombach, en particulier de la part d'une dizaine de jeunes filles qui ont été soit insultés, soit violentés, soit même peut-être violés, qui ont subi des attouchements de la part de l'honorable médecin de Lindau. Eh bien, tous ces éléments-là font vaciller, je dirais, tous les gens présents dans cette salle d'audience, et en particulier la propre maman de Kalinka, Danielle Gonin, qui finit par douter, parce qu'elle avait pris fait et cause pour le docteur Krombach. Mmh. Elle avait trouvé que son ex-mari, André Bamberski, avait été tellement méchant, cruel avec elle,
agressif,
la responsabilité. Oui, agressif avec elle. Ils ont porté la responsabilité de la mort de sa fille, ce qui est terrible pour une mère. Et donc, elle avait pris fait et cause pour Krombach. Et en fait, au fur et à mesure des journées d'audience, eh bien, elle se rallie à son ex-mari, sans bien entendu jamais, je dirais, qu'il y ait de la part d'André Bamberski le moindre début de réconciliation avec celle qu'il avait quittée pour aller vivre avec le médecin allemand.
Mais on sent ce médecin allemand, ce docteur Krombach, il est fatigué, vous l'avez dit, mais il est mal à l'aise à ce procès. Il ne sait pas très bien ce qu'il faut raconter finalement.
Ah oui, ça, il s'exprimera très peu. Ce sont ses avocats qui le font pour lui, avec parfois un petit peu de maladresse, un petit peu de violence dans les propos. Lui, il reste vraiment, je dirais, joue son rôle d'homme blessé, amoindri, fatigué, malade. Il fuit le regard d'André Bamberski, qui, lui, ne cherche qu'une chose, à le fusiller du regard. André Bamberski, lui, ses premiers jours d'audience, pour lui, c'est pas une libération, c'est pas une joie. Il a atteint son but, certes, mais le plus dur reste encore à faire. Il s'agit de faire condamner Crombard. Il s'agit de l'envoyer en prison. Et lui, il ne vit que pour ça. Il est une espèce de boule de nerf extrêmement émue. Il a la larme facile. Mais il a toujours le regard très dur, très fort sur le banc des accusés.
Ouais, on comprend bien que c'est un combat acharné, cette audience. Maître Gibault, il va d'ailleurs y avoir tout un débat autour de la légalité même de ce procès. Puisque les avocats de Dieter Crombard disent bah, écoutez, l'Allemagne n'a pas fait de poursuite. L'Allemagne, finalement, a jugé Crombard. On ne peut pas le juger une deuxième fois.
Oui, ça, c'était leur grand argument, parce qu'ils ont dit que l'affaire a été classée sans suite trois fois. Ensuite, M. Bamberski, très imprudemment, avait fait un appel et la Cour de Munich avait confirmé, non pas les non-lieux, hein, un non-lieu, c'est l'autorité de la chose jugée, mais pas du tout les classements sans suite. Donc la cour de Munich, elle n'avait pas plus d'autorité que les policiers qui ont classé sans suite. Voilà pourquoi il a été jugé en France sans que la justice française reconnaisse un jugement quelconque en Allemagne.
François Gibault, est-ce que cette affaire est terminée aujourd'hui? C'est fini?
Sur le plan judiciaire, elle est définitivement terminée. Et en fait... La libération du docteur Krombach, permet de tourner la page une fois pour toutes et définitivement.
Ça va rester une affaire unique dans l'histoire judiciaire.
En tout cas, dans ma carrière d'avocat, j'ai plaidé pas mal d'affaires importantes, mais celle-ci, oui, elle ne ressemble à aucune autre.
Merci beaucoup, Maître François Gibault et puis Patrick Tégéraud, notre correspondant à Toulouse, le chef du bureau de RTL Toulouse, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Amandine Lemaire et Marc Bisset, à la réalisation.
Parlons-nous. Attention, nouvel horaire, 22h minuit 30. Caroline Dublanche.
Chaque soir, dès 22h, dans Parlons-nous, vous êtes au cœur de l'émission, avec vos interrogations, vos joies ou vos peines, vos doutes. 2h30 d'écoute et de partage pour écouter vos confidences, vous guider et vous aider à avancer dans les questionnements de votre vie.
Vous souhaitez intervenir dans l'émission? Alors appelez dès maintenant le 09 69 39 10 11.
Prix d'un appel local.